Allez, un sur chaque table, s'il vous plaît, on se dépêche. Oui. Comment ça s'est passé pour vous, toute cette période compliquée, là?
En vrai?
Évidemment pas en faux, t'imagines. Bon, en vrai, c'était pas fou.
Ouais, voilà.
On va partir sur plusieurs sujets que vous avez choisis et qui vont nous permettre, comme ça, d'explorer des thématiques liées à Marseille, mais qui concernent évidemment tout le monde. Ces thématiques-là, vous avez préparé évidemment des questions. Donc on a un médecin, on a un acteur, on a quelqu'un qui va vous parler de l'égalité des chances. La possibilité d'évoluer dans la société en étant comme ça, dans cette égalité des chances. Vous savez qu'il y a l'école de la seconde chance qui est pas très loin d'ici, dans les quartiers nord de Marseille, juste à côté. Et donc on va voir aussi quelles questions vous avez à poser à cette personne qui vous parlera de la façon dont vous pourrez évoluer dans la vie et faire les études les plus poussées possibles. Ok.
France Inter, Interclasse.
On est au lycée Saint-Exupéry, c'est le petit prince. C'est vous, nos petits princes. Surtout, ne laissez jamais personne vous faire croire que vous êtes un rien. Et à vos passions.
France Inter, Interclasse, lycée Saint-Exupéry à Marseille.
Nous sommes dans les quartiers nord de Marseille avec une vue imprenable sur le port. Derrière, il y a des collines. Autour de nous, ce sont des grands ensembles qui datent des années 60, des lotissements, des usines. Et puis en face, le lycée Saint-Exupéry. C'est le seul lycée général des quartiers nord avec 1800 élèves et c'est là que nous allons. Bonjour.
Oui, bonjour.
Laurent Sabatier, je suis proviseur de ce lycée depuis septembre. C'est un établissement qui compte une dizaine d'hectares avec une vue sur la mer. Moi, ça fait 27 ans que je suis dans les quartiers nord. Je dirais que c'est mon lycée le plus simple en termes de gestion des élèves. Bon, le problème majeur, le niveau scolaire, hein, puisque ce sont des jeunes qui viennent d'établissements qui sont souvent classés en REP+. Mais à côté de ça, j'ai travaillé dans des coins qui étaient beaucoup plus difficiles, où la violence était plus présente. C'est pas le cas au lycée Saint-Exupéry, puisque nous recrutons les élèves qui effectivement viennent des cités, mais qui ne sont pas à proximité du lycée.
Alors à quoi elle ressemble la vie des élèves dans ces cités? Nous avons rendez-vous avec Najim, 15 ans, il habite la Cabucelle, il faut prendre le bus.
Là on est au 287, c'est le numéro du quartier.
Là c'est un stade?
Ouais, c'est un stade de foot. Malheureusement, depuis que je suis petit, ils ont promis du synthétique. Moi je ne l'ai jamais vu, c'est toujours de la terre battue. Et moi j'habite dans une des trois maisons qu'il y a là. En fait, ça s'appelle une villa. Sur l'étiquette, il y a écrit villa. Mais moi je ne considère pas ça comme une villa. Ils sont bons, hein, parce que mes parents ils sont tombés dans le panneau. Là, je vais vous montrer la mosquée. C'est un endroit sans problème là-bas.
Comment tu te sens quand tu sors de la mosquée?
Je me sens un peu plus libre. Vu qu'on parle directement à Dieu, je demande à avoir les moyens de sortir mes parents d'ici. Parce que moi, j'aimerais bien devenir acteur. Par exemple, je me suis bien vu dans La Haine, la scène de Vincent Cassel, quand il est devant le miroir.
C'est à moi qu'il parle, putain! C'est à moi que tu parles comme ça, ouais!
Il fait un air de méchant, alors que dans le film, on voit que c'est pas un méchant.
Najim et ses rêves de cinéma, il nous laisse à l'arrêt de bus. On va rejoindre maintenant un de ses amis, Hichem, 16 ans. Il habite la cité de la Castellane. Voilà l'arrêt La Castellane. Il faut zigzaguer entre les tours maintenant. La plus grande fait 15 étages. Ah, ça y est, on retrouve Hichem.
C'est compliqué à rentrer. C'est surveillé, voilà. Mon bâtiment, c'est celui qui est en face, là-bas, au deuxième étage.
Et donc ici, tu joues au foot, tu vas à la plage, à 30 minutes en bus, mais tu fais surtout partie d'une association.
Il y a mon président là-bas, il a vu juste un bâtiment.
Bonjour. Brahim, c'est ça?
Brahim, avec votre association Sabil, vous êtes un peu le grand frère.
J'essaie de prendre un maximum de jeunes, que les jeunes voient un peu les familles dans la difficulté. Et je suis très fier.
Et donc là, Hichem, tu pars faire une distribution dans un foyer pour SDF.
Oui, je me sens utile. On donne des colis alimentaires, des colis vestimentaires.
Tu te vois où, Hichem, dans 10 ans?
Pour l'instant, là, je ne me vois pas partir. Je ne me vois pas partir de la Castellane. Genre, moi, j'ai l'habitude de rester avec mes collègues. Après, si je pars, j'aurai personne.
Marseille!
C'est moi, papa!
Interclass en extérieur ici à Marseille, au lycée Saint-Exupéry, avec la mer qui est face à nous, tous les bateaux de croisière qui sont accostés au port, et puis un petit peu de vent. Ici, on est avec un médecin généraliste des quartiers nord, avec le docteur Saïd Wichou, et Jenna ainsi que Lina vont lui poser des questions autour évidemment de la crise sanitaire, mais aussi de toutes leurs interrogations personnelles. Allons-y, c'est parti, Jenna.
Bonjour, docteur.
Bonjour.
Savons-nous vraiment combien de temps nous sommes contagieux ?
On est contagieux tant qu'on est porteur du virus.
Parmi les patients que vous avez reçus, certains ont-ils été contaminés ?
Malheureusement, oui. J'ai une vingtaine, 21, je crois, patients Covid positifs. Quelques-uns ont été hospitalisés, donc ça a été nécessaire. Mais ils sont tous rentrés chez eux et j'ai perdu aucun patient contaminé par le coronavirus.
Sous la pinède, il y a Ryan qui vient d'arriver et qui lève la main. Ryan, avec un super survêtement coloré.
Est-ce qu'on ne va plus me faire de manière pour faire la bise ?
Donc, je vois que tu as le sens pratique. Pour le moment, on ne sait pas. Aujourd'hui, personne ne peut prédire l'évolution du coronavirus. Personne ne peut prédire la suite, c'est-à-dire un retour de l'épidémie à l'automne ou l'hiver prochain.
Bonjour, docteur. Alors, est-ce qu'il y a eu une histoire d'un patient qui vous a touché particulièrement ?
Tous les patients nous touchent à des degrés divers, mais si tu poses la question, effectivement, il y a un patient qui m'a touché parce que je l'ai dépisté à mon cabinet, je lui ai fait le test, et le test est revenu positif, et j'ai voulu donc l'hospitaliser. Il n'y avait pas beaucoup de place à l'hôpital, bon, j'ai dû insister, finalement, ils ont réussi à lui trouver une place, et il est resté 5 jours, à peu près 5-6 jours. Et quand il est sorti, il m'a appelé. Il m'a dit, docteur, sans vous, je serais mort. Vous m'avez sauvé la vie. Donc il m'a dit, toute ma vie, je ne vous oublierai pas. Voilà.
Avez-vous reçu de l'aide d'autres médecins lorsque vous vous êtes retrouvé seul pendant la crise ?
Bon, j'exerce un métier. On est un peu solitaire. On est dans son cabinet face à ses patients. Donc c'était mon cas pendant l'épidémie. Il y avait autour de moi beaucoup de médecins qui étaient fermés. Donc je n'ai pas eu à demander de l'aide. Malheureusement, c'est vrai que tous les cabinets n'étaient pas ouverts. Parfois pour de très bonnes raisons d'ailleurs. Donc non, j'ai travaillé tout seul. Seul face aux patients.
Avez-vous ressenti le fait d'être plus que médecin pendant la crise ?
Très bonne question. Quand on est médecin, et tu verras, puis tu te diriges vers des études médicales, quand on est médecin, on est un peu beaucoup plus qu'un médecin. J'exerce dans les quartiers où il y a beaucoup de précarité, beaucoup de problèmes sociaux, économiques. Le virus est venu accentuer un petit peu ces problèmes-là et j'ai été confronté effectivement à des problèmes de patients qui vivent confinés dans des petits appartements, dans des hébergements insalubres où ils viennent me voir parce que, par exemple, ils me racontent, ils ne travaillent plus, ils ne peuvent pas payer leur loyer, comment il faut faire. Donc on va les écouter, on va leur donner quelques pistes quand on en a. Mais c'est vrai que être médecin, en particulier ici à Marseille dans le 15e, on a un rôle beaucoup plus important qu'un médecin. C'est un métier avec des aspects beaucoup plus diversifiés que la médecine pure.
Est-ce que vous, les médecins et les infirmières, vous étiez bien équipés pendant l'épidémie ?
Pour faire une réponse simple et rapide, pas du tout. Donc, en particulier au début de l'épidémie, on était confrontés à la maladie, mais on n'avait pas beaucoup de moyens, en particulier pas de masques FFP2 qui sont reconnus protecteurs contre le virus. Donc, les masques chirurgicaux ne suffisaient pas. Beaucoup d'infirmières ont travaillé sans le matériel nécessaire, ont été exposées vraiment au danger. Il a fallu beaucoup de temps avant qu'on soit équipé. Donc, on a improvisé un petit peu. On a essayé d'utiliser le réseau, nos contacts, pour essayer d'avoir un masque par-ci, un masque par-là, sans parler des gants, sans parler du gel hydroalcoolique. Donc, en effet, on n'était pas équipé, on n'avait pas assez de matériel. J'ajouterais aussi, bien qu'on ait des difficultés à avoir le matériel, bon, parfois on y arrive, mais il s'est posé un autre problème, c'est celui des infirmières qui vont effectivement faire leur travail à domicile des patients. Elles se font casser les voitures parce que les gens leur volent leur matériel, leur volent leur masque. Elles en sont arrivées, par exemple, à retirer le caducé. Donc des infirmières se font casser, se sont vraiment fait agresser pour avoir du matériel. C'est-à-dire, On a l'impression qu'on était dans une jungle, il y avait une question de survie, et que si vous êtes infirmier et que vous croisez quelqu'un, il va vous arracher votre mallette, ou il va casser la voiture pour prendre ce matériel de protection. Donc c'est venu aggraver un peu les difficultés pour s'équiper, et malheureusement, ça a été très très compliqué pour les infirmières, en effet.
Les médecins qui ont décidé de travailler comme vous pendant l'épidémie, est-ce qu'ils ont reçu une récompense ?
Tu veux dire si on a eu une prime de risque ? Moi, pas du tout. On n'a pas été reconnu. Je dirais que la médecine de ville, et on en sait quelque chose aujourd'hui avec le Ségur de la Santé, n'est pas du tout reconnue pour le travail qu'elle a fait pendant l'épidémie. Aussi bien les infirmières que les médecins qui ont travaillé. Non, on a travaillé comme d'habitude, même si on était exposé au danger.
On va se retrouver dehors pour un autre débat. On va parler de la distanciation sociale, notamment du côté tactile du Sud. C'est très difficile, la distanciation sociale, ici, à Marseille.
Parce qu'un masque n'a jamais empêché de sourire et qu'un plexiglas n'arrêtera jamais un « il n'y a plus de saison ». Parce qu'à 2 mètres de distance, il suffit de chuchoter un peu plus fort pour se raconter les derniers potins du voisinage. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, ça vous fera plaisir de demander « comme d'habitude ».
Donc on est de retour dans la cour du lycée Saint-Exupéry et puis on va évoquer le sujet de la distanciation sociale pendant le confinement. Comment vous avez vécu ça ?
Quand j'allais faire la bise à une personne, elle mettait le poing devant, je me sentais mal un peu.
Pour le peu de personnes que je voyais, je leur faisais la bise. Parce que ça ne me dérangeait pas, ils étaient bien confinés, ils ne voyaient personne, ils voyaient très peu de personnes, donc je m'en fous.
Moi j'ai dit bonjour comme avant. Même le confinement il est arrêté, je disais bonjour, je faisais la bise, je faisais des câlins, je parlais avec mes potes comme avant, il n'y avait pas de confinement.
Qu'est-ce qu'il raconte ?
Moi ça ne me dérangeait pas parce que, au contraire, ça m'arrangeait parce que j'aime pas faire la bise aux gens. J'aime pas qu'on me touche, voilà. Surtout les gens que je connais pas vraiment.
Enfin, pour moi je vivais normal, comme si c'était pas le confinement, genre comme s'il n'y avait pas de virus. Je m'en foutais en fait.
Quand on voit nos copines et tout, genre on est mal du fait que genre on leur fait pas la bise, tout ça, pour nous c'est respectueux, tout ça.
On est très tactile.
Je sais qu'elle a pas le coronavirus, donc je fais la bise.
Comment tu sais ?
Bah parce que sinon elle me l'aurait dit, elle serait pas dehors. Et moi j'y croyais pas trop au coronavirus, je m'en mens pas. Aucun proche de ma famille n'a eu le coronavirus, etc. Moi je crois pas à cette histoire de coronavirus.
La vie est belle, le destin sans les cartes. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le berceau lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. Pourquoi fortune et infortune ? Pourquoi suis-je né les poches vides ? Pourquoi les siennes sont-elles pleines de thunes ? Pourquoi j'ai vu mon père en cycle partir travailler ? Juste avant le sien en 3 pièces gris et BMW la monnaie. Et une belle femme qui n'épouse pas les pauvres. Sinon pourquoi suis-je là tout seul marié sans dot ? Pourquoi pour lui c'est crèche et vacances ? Pour moi c'est stade de foot sans cage, sans filet, sans même une ligne blanche. Pourquoi pour lui c'est l'équitation ? Pour moi les bastons, pour lui la coque, pour moi les flics en faction. Je dois me débrouiller pour manger certains soirs. Pourquoi lui se gave de saumon sur lit de caviar, certains naissent dans les choux, d'autres dans la merde. Pourquoi ça pue autour de moi ? Quoi ? Pourquoi tu me cherches ? Pourquoi chez lui c'était Noël ensoleillé ? Pourquoi chez moi le rêve est évincé par une réalité glacée ? Et lui a droit à des études poussées ? Pourquoi j'ai pas assez d'argent pour acheter leurs livres et leurs cahiers ? Pourquoi j'ai dû stopper les cours ? Pourquoi lui n'avait pas de frère à nourrir ? Pourquoi j'ai dealé chaque jour ? Pourquoi quand moi je plonge, je lui passe sa thèse ? Pourquoi les cages d'acier, les cages dorées agissent à leur aise ? Son astre brillait plus que le mien sous la grande toile. Pourquoi ne suis-je pas né sous la même étoile. La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le berceau lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le berceau lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile.
Comme Issa, pourquoi je suis pas né la bonne étoile, veillant sur moi, couloir plein de doigts, de crachat, tcha-tcha, de francs, compète des tapettes devant, supporter de grandir sans un franc, c'est trop décevant, simplement en culotte courte. Pas faire l'appel mécanique plate avec des pots de yaourt, c'est pas grave, je n'en veux à personne et si mon heure sonne, je m'en irai comme je suis venu. Adolescent incandescent, chiant à tour de bras sur le fruit défendu, innocent, témoin de type abattu dans la rue, c'est une enfance de la pourriture, ouais, je ne drague pas mais virer des tartes aux petites avec les couettes. Pâle de peur devant mon père, ma soeur, porter le voile, j'y revois à l'école les gosses qui la croient ce poil, c'est rien Léa, si on on était moins scrupuleux. Un peu de jeu du feu, on serait comme eux. Mais j'ai pleuré pour avoir un job comme un crevard sans boire. Les je t'aime à mes parents seuls dans mon lit le soir. Chacun son boulet, sans ambition, la vie c'est trop long. Écrire des poèmes, puis c'est violent dans un violon. Tu te fixes sur le wagon, c'est la locomotive que tu manques. C'est pas la couleur, c'est le compte en banque. J'exprime mon avis, même si tout le monde s'en fiche. Je serais pas comme ça si j'avais vu la vie riche. La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le berceau lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le berceau lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile.
Mon Dieu, pourquoi ne puis-je vivre comme n'importe quel être humain? Pourquoi mon destin est-il?
Interclasse au lycée Saint-Exupéry de Marseille avec un invité autour de notre plateau et les élèves évidemment du lycée Saint-Exupéry. Bonjour Moussama Askri.
Bonjour.
Vous êtes un acteur qui a beaucoup fait parler de lui ici à Marseille, qui fait encore parler de lui. Vous avez tourné dans une cinquantaine de films. Vous avez commencé sur les planches avec Marcel Maréchal au théâtre de la Criée ici à Marseille. Et puis il y a une série très connue que les jeunes connaissent, Les Dégains. Vous avez canalisé votre révolte, dites-vous, grâce à la culture, grâce au théâtre, grâce au cinéma. Vous pouvez expliquer cela aux jeunes qui sont autour de nous?
L'expliquer, j'arrive pas à me l'expliquer moi-même aujourd'hui. Si peut-être la passion pour quelque chose qui m'amenait ailleurs. C'est arrivé il y a longtemps et moi j'étais au Flamand et j'avais 18 ans et il y a eu un contrôle de police un soir à la Busserine et ça s'est mal terminé. Il y a eu la mort de Lawari Ben Mohamed, c'était un assassinat. Et à partir de là, moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Ou je continue à rester dans mon quartier à végéter, à rien faire, à me plaindre, à me complaindre, ou je bouge?
Mais qu'est-ce qui s'est passé ce fameux soir? Je sais que vous avez du mal à en parler, parce que c'est un contrôle d'identité qui s'est mal passé pour vous aussi, mais qui s'est surtout soldé par la mort de l'un de vos meilleurs amis.
Ouais.
Vous pouvez raconter ce qui s'est passé?
Ça reste très difficile. Aujourd'hui, en plus, le contexte, j'ai pas envie de...
Justement, avec le contexte.
Oui. C'est un soir, on est là entre potes, il y a un pote qui a une voiture qu'il vient d'acheter, on fait tous un tour avec. Et donc, il y a un contrôle de police et il y a un policier qui joue avec l'arme, qui ne doit pas jouer, qui contrôle un peu trop, qui va un peu trop loin. C'est 1%, mais ce pourcent-là, il a tué ce soir-là. Voilà.
C'est le sujet en ce moment, les policiers qui jouent avec des armes. Il y a du racisme social. Du racisme tout court.
Alors, tu dis ça par rapport à George Floyd aux États-Unis.
Adama Traoré en France.
Adama Traoré en France. Et toutes ces polémiques autour, c'est effectivement, ça. Du respect du citoyen.
Voilà,
entre autres.
La vérité, il s'arrêtera jamais. Il y aura toujours des racistes. On aura toujours. Je pense pas que ça s'arrêtera.
Tu crois ça, toi?
Ouais.
Quand Ryan et Najim disent qu'il y aura toujours des racistes et qu'il y a toujours des racistes, qu'est-ce que vous dites à
c'est
ça?
C'est terrible d'entendre ça. Ça vous choque pas?
Bien sûr que ça me choque, mais je vous voyais ne pas réagir.
La réaction, c'est pas la guerre, c'est pas déclarer la guerre, c'est pas jeter l'opprobre sur l'autre. S'il est bête, eh ben, on va lui parler, on va essayer de lui faire comprendre. Mais s'il comprend pas, c'est à l'État. L'État est là pour ça. La démocratie, c'est pour ça qu'il faut la préserver. L'État est là pour faire des lois, pour mettre tout le monde dans le rang.
Vous dites ça parce que vous faites de la politique aujourd'hui ou pas?
Bien sûr, parce que c'est important de faire de la politique.
Vous êtes engagé auprès de Martine Vassal pendant les élections municipales, tête de liste dans le 15-16.
Oui.
Vous êtes un politicien aujourd'hui, Moussa?
Mais j'ai toujours été politicien,
ah bon?
Depuis que je suis petit.
Ah bon?
Ah oui.
Là, on l'a appris, enfin moi, personnellement, j'ai appris récemment.
Ah non, l'engagement politique, oui, c'est tout nouveau.
Ah, voilà.
Mais j'ai toujours fait de la politique depuis que je suis jeune.
Parce que moi, je voyais vos têtes sur des affiches, comme ça.
Mais c'était pas des films.
Ouais, voilà, c'est ça.
Mais vous avez changé de discours, alors, du coup, ou pas? Vous l'avez aseptisé un peu?
Non, j'ai pas... Non, alors là, non. Le lendemain du premier tour, c'est moi qui ai décidé de me retirer. Tout seul. On m'a rien demandé, on m'a rien dit. Je me suis retiré. J'ai discuté avec personne. Je n'ai fait des tractations avec personne. Parce que pour moi, il y avait un il y avait des chances que le Front National passe et que moi, je, en restant là, je puisse les aider à passer.
J'avais une question par rapport à l'histoire avec votre meilleur ami. Après ça, vous avez fait quoi, vous ?
Au début, on était un peu perdus parce que ça, on ne comprenait pas. Nous, on était des jeunes de quartier révoltés parce qu'on savait pourquoi il avait été tué. Et du coup, ben, on nous a proposé des choses, des animations, tout ça. Ça me faisait chier. Ouais. Et puis, le théâtre est arrivé et du coup, ça m'a passionné de jouer.
À quel âge avez-vous fait votre premier film ?
Mon premier film que j'ai joué dedans, même tout petit truc. Ouais, tout petit. C'était un film qui s'appelait Logement pour femmes seules. C'était pour TF1. À l'époque, c'était un téléfilm avec Nadia Samir, qui était une des premières présentatrices issues de la diversité. Après, au cinéma, c'était un film de Alex Métayer, ça s'appelait Mohamed Bertrand Duval. Et là, je faisais un gitan.
Ça vous va bien le rôle.
Mais c'était pas celui-là, c'était une comédie, c'était pas un méchant. Après, les rôles de méchants sont arrivés après.
Quand vous avez joué dans des films de Luc Besson, ou bien de Jean-Jacques Hano aussi, de frères, ça vous a rendu fier, ça ?
La fierté, je la cherchais pas, moi. Moi, je voulais être heureux dans ce que je faisais. Je voulais le faire bien. Parce que je me disais, quelque part, il y a toujours, t'es un mec des quartiers, tout ça, fais le bien, fais le propre. Parce que tu étais un peu ambassadeur de quelque chose.
Quand vous avez commencé votre carrière dans le cinéma, il y avait des proches à vous qui n'ont pas aimé ?
Mon père, il ne voulait pas.
Pourquoi ?
Il ne comprenait pas. Il dit, c'est quoi ce truc ? C'est un métier.
En fait, lui travailler, c'est plus maçonnerie, ça et ça.
Il travaillait avec les mains. Il ne comprenait pas.
Voilà.
Et un jour,
mon père, c'est pareil.
Quand je jouais à la criée, j'habitais chez mon père et ma mère. Et j'apportais le chèque à la fin du mois. C'était un beau chèque. Et un jour, il me dit, je vais venir voir ce que tu fais. Je dis, bah ouais, viens, comme ça tu comprendras. J'étais super content et tout. Et il vient un jour où le seul moment où j'ai une réplique, Maréchal, il me la coupe. Il me coupe la réplique, c'est que je rentre, je parle pas. Et je sors. Et là, mon père, il est venu, il m'a dit, il te donne ce chèque pour faire ça. Je lui dis, oui. Il m'a dit, si tu bouges de là, je te tue.
Dans une partie des films que vous jouez le rôle d'un personnage assez méchant. Est-ce que vous êtes comme ça dans la vie de tous les jours ?
Non.
Il est pire.
Je suis pire. Non, mais c'est ça qui est bien au cinéma et c'est pour ça que je crois que j'ai aimé ce métier tout de suite. C'était de jouer des personnages qui étaient loin de moi et d'autres qui étaient proches de moi. Et moi, j'ai souvent cru que la violence que j'avais en moi, elle était loin. Et en fait, pas du tout. Et on l'a tous en nous, hein.
Quel a été votre meilleur tournage ?
Le prochain, j'espère.
Alors oui, tiens, vous avez fait des clips, dites donc.
Oui.
Moussa Maskri, des clips avec le gratin du rap, comme on dit, Joule, Caris, La Crime, Psychiatre de la Rime, les Marseillais.
Sopra, Alonso.
Qui c'est qui embrasse Psychiatre ?
D'ailleurs, je vais le rejoindre tout à l'heure.
Il a même fait une série avec La Crime.
Ouais. Alors racontez ça, honneur. Moussa.
Parce que c'est pour ça que je dis que j'ai jamais édulcoré ni... Les gens savent d'où je viens. C'est parce que j'ai jamais coupé le cordon avec les quartiers. Jamais coupé le cordon avec de là où je venais. Parce que j'ai toujours, et je suis persuadé que si on sait d'où on vient, on sait où on va. Ouais. Et j'ai toujours tendu la main. J'ai toujours été là. Les dégueux, c'est pareil. Les jeunes de quartier sont arrivés. Ils m'ont dit, voilà, on veut faire ça. J'ai trouvé ça. Allez, on y va. Les Secpa, pareil. Et les rappeurs, c'était pareil. Ils venaient me voir, ils me disaient « Tonton, je veux te voir dans mon clip. C'est pas compliqué ?» Je dis « Non, il n'y a rien de compliqué. Surtout quand ça vient de vous. » J'avais cette préférence. Je voulais et je m'étais dit que moi, on ne m'a pas aidé quand j'ai commencé. Et je me suis dit que si un jour j'avais un peu de poids, j'aiderais tous les projets qui viendraient des quartiers. C'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que je me retrouve dans des clips divers et variés.
Vous avez des questions à poser aux jeunes qui vous entourent là, Moussa Maskri ?
Moi, j'ai envie de savoir si vous avez des passions.
J'ai un collègue, il est passionné des voitures. Il aime trop les voitures, il connaît toutes les voitures et tout ça. Et je crois qu'on avait 10-11 ans. Il m'a dit, en fait, ma passion, c'est les voitures. Et toi ? Moi, je lui ai dit, ça fait 11 ans que je cherche. Je sais pas.
Et ?
Eh ben là... Là, j'ai 16 ans.
T'as
toujours pas.
Moi, j'ai deux passions. La première, c'est le foot. Mais je sais que je suis nul un peu.
Donc,
je suis une naze. je laisse ça aux gens plus forts que moi. Et la deuxième, c'est je veux être acteur. J'aime pas me vanter à la radio, mais...
Il envoie du bois.
Voilà, je suis drôle.
C'est vrai?
Ouais, voilà,
mais c'est vrai que tu as été drôle toute l'année.
Ah, voilà. Ouais.
Moi, j'ai trois passions. J'ai une passion pour le cinéma, mais pas pour jouer le rôle. J'aime bien regarder les films et des séries. Après, j'ai une autre passion pour le shopping. Et après, une dernière passion pour les restaurants, sortir et manger.
Excusez-moi, je peux parler? C'est une passion, ce qu'elle a dit.
Oui.
Je pensais, qu'une passion, c'était quelque chose de, qu'on pourrait enseigner à quelqu'un. Genre, je vais t'enseigner à faire du shopping, je vais t'enseigner à manger, je vais t'enseigner à regarder
une manger, oui, ça s'enseigne. Ouais, c'est un art, hein, l'art culinaire.
Le gourmet, les meilleurs
pâtissiers. Lina. Je la rejouais sur l'art culinaire. C'est trop bien. Enfin, c'est une passion de manger, de toute la nourriture. Il n'y a que ça.
Tesnim.
Moi, depuis que je suis petite, je dessine.
Oui.
Et j'écris aussi. J'écris beaucoup. Mais en vrai, j'ai toujours, depuis, je crois, 13 ans, 12 ans, j'ai toujours voulu devenir actrice. Mais après, quand j'ai vu l'histoire avec le réalisateur et tout, et comment c'était difficile pour les femmes, ben, je laisse tomber.
Non, il ne faut pas. Il ne faut pas. Je peux te promettre que ça a déjà beaucoup changé.
Caïs.
Moi, j'ai une passion. Je ne pourrais pas en faire un métier. J'aime bien faire du vélo. C'est...
Un bicycliste avec les
colons sexy. C'est une vraie passion. Moi, j'adore.
Tous les soirs, je fais du
j'en
vélo.
J'en fais pas, hein, regarde.
Non, moi, faire le vélo, c'est ma vie. Je préfère faire ça que jouer à la play.
Le mot de la fin, on va le laisser à Moussama Askri pour vous.
On est au lycée Saint-Exupéry, c'est le petit prince. C'est vous, nos petits princes. Surtout, ne laissez jamais personne vous faire croire que vous êtes un rien. Et à vos passions.
Merci beaucoup, Moussama Askri. Merci beaucoup. Vous pouvez l'applaudir, Moussama Askri, s'il vous plaît.
Marseille, c'est la plage, le foot, la gratte en pleine chaleur. Je vois les gars disonner, faire des béquilles en Pfizer. Les flics te font danser, le moonwalk à coup de taser. On s'ennuie toute la nuit, on parle, on tourne jusqu'à pas d'heure. Marseille, c'est la plage, le foot, la gratte en pleine chaleur. Je vois les gars disonner, faire des béquilles en Pfizer. Les flics te font danser, le moonwalk à coup de taser. On s'ennuie toute la nuit, on parle, on tourne jusqu'à pas d'heure.
Moi, c'est Sophia A et j'ai 15 ans.
Moi, c'est Tessny, mais j'ai 16 ans.
Moi, c'est Jenna et j'ai 16 ans.
Moi, c'est Lina et j'ai 16 ans.
Moi, c'est Sophia B et j'ai 16 ans.
Et maintenant, on va vous dire ce qu'on a pensé de l'interview de Moussa.
C'est qu'il nous pousse à poursuivre ce qu'on aime et nos passions. Déjà que je l'aimais dans ses films et dans ses séries, mais là, je l'aime encore plus. Parce que ce n'est pas une personne qui se la pète.
Les filles, on ne vous a pas beaucoup entendu parler de politique tout à l'heure. C'est les garçons qui monopolisaient la parole. Mais oui, mais pourquoi? Vous avez le droit de dire « j'aime pas », mais pourquoi vous n'aimez pas?
J'aime pas parce que quand je regarde à la télé, des fois, les débats sur le voile, tous ces trucs comme c'est ça, énervant. Ça me concerne parce que c'est ma religion. Mais ça m'énerve parce que je sais que je peux pas réagir. La politique, ils exagèrent trop les choses. Elle exagère dans la religion. Surtout dans
mais elle ne fait pas que la religion, la politique, elle ne rentre pas dans le domaine
oui,
de la religion.
Oui, je sais, mais je ne sais pas, à chaque fois, j'aime pas.
Moi, je trouve dans la politique, il y a 5% de vérité, 95% de mensonges.
D'où sors-tu ces statistiques?
Non, mais c'est moi qui l'ai sorti, mais... non, mais c'est que du mensonge, je trouve que c'est faux, donc j'aime pas.
Et comment tu sais que c'est faux?
Entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Les présidents, quand ils se présentent, ce qu'ils disent et ce qu'ils font ensuite...
C'est des choses différentes.
Surtout ce qu'ils vont dire, il y a peut-être une chose qu'ils vont vraiment faire de bon, donc ça ne m'intéresse pas.
Est-ce que vous allez voter plus tard?
Oui.
Moi, oui.
Si notre vote, il compte.
Mais les Karchenor, on n'est même pas... Enfin, on n'est même pas calculé, genre.
Samia Ghali, elle propose des logements pour des personnes qui n'ont pas de travail et tout. Ben, vous venez, vous votez pour moi, on peut avoir un entretien et je peux vous sortir en gros de la galère. Moi, ma mère, elle a demandé plusieurs fois de déménager puisqu'on habitait à la Bricarde. C'est un quartier nord et c'est ça, et c'est pourri maintenant dans la base parce que c'est sale. Il y a des gros rats, il y a plus de lumière, il y a aucune lumière le soir. Donc, en gros, elle nous fait espérer quelque chose, mais qui se produira jamais. Et après, les seuls quartiers qui lui ont proposé à ma mère, c'était la Solidarité et la Castellane. C'est encore plus pire.
Ouais, la casse-tête.
Et alors, quand Moussa, tout à l'heure, a dit qu'il s'engageait en politique, qu'est-ce que ça vous a fait? Ça vous a déçu ou au contraire, vous dites c'est bien qu'il y ait quelqu'un comme lui qui fasse de la politique?
Moi, je pense que Moussa Maskri, depuis, enfin, là, il vient de se présenter à la politique, mais dès qu'il rentrera dans ce milieu, il deviendra comme tout le monde, parce que après, il sera influencé par les autres et peut-être il deviendra comme tout le monde. Et après, on ne sait pas, parce que, comme il l'a dit, il vient des quartiers nord, peut-être il va nous trouver des logements ou.
Finalement, la politique pour vous, c'est trouver des logements pour la famille?
Non, c'est pas que les logements, mais c'est surtout aider les autres, les personnes en difficulté, mais s'ils le font pas, ça sert à rien.
Je pense pas connaître bien la définition du mot politique. Je parle que du logement depuis tout à l'heure.
Ça fait partie de leurs promesses. Et nous, en vrai, quand on est dans les quartiers nord, c'est ce qui nous intéresse, parce qu'on veut sortir de ça. Et ils promettent des choses, nous, on croit en ça, et à la fin, on est déçus. Il y en a qui sont concernés par ce qu'ils disent. Par exemple, s'ils parlent d'autres choses, des centres sociaux et tout. Mais nous, je pense que la majorité des gens des quartiers nord, ils sont plus concentrés sur ce qu'ils disent sur les logements. Parce qu'on veut sortir de ça, je pense. La majorité, après, je sais pas qui veut rester dans les quartiers nord. Love me or leave me and let me be lonely. Inside my head there's a voice that controls me. I'd rather be somewhere else with anyone but me. Oh, love me or leave me and let me be lonely. Been down so long now that happy is holy. I'd rather be somewhere else with anyone but me. 7 years strong with my therapy, making mosaics of my memories. Puzzled with doubt, I'm my closest enemy. It's like this girl is squatting in my identity. She's a raver, a little libertine, then a bouncer to my dopamine. Tried so hard to become a referee, to even out the game that's between my mind and me. Love me or leave me and let me be lonely. Inside my head there's a voice that controls me. I'd rather be someone else with anyone but me. Ooh, love me or leave me and let me be lonely. Been down so long now that happy is holy. I'd rather be someone else. Man and wife, Peckham preacher, giving bad advice. She just does the spending and then I pay the price. Trying to be Khaleesi, but she always tricked me twice. God, I know I could do better.
Et dans Interclasse au lycée Saint-Exupéry, ici à Marseille, on va écouter un reportage réalisé avec les élèves en classe. On avait parlé des baskets. Caïs, ne fais pas cette tête, te moque pas de moi. Il m'imite Caïs en fait quand je parle. Et il y en a une qui a de super baskets toute l'année. Elle nous a montré ses baskets roses. Et c'est l'enseignante Claire Comté.
Oui, alors je suis enseignante d'éducation physique et sportive, donc nécessairement tous les jours je porte des baskets, donc je varie aussi bien entendu. Et là aujourd'hui j'ai des baskets un peu plus, enfin on va dire moins sportives, mais un peu citadines, un
avec
peu originales.
Avec un ruban rose.
Et voilà, avec un beau ruban rose. D'ailleurs Ryan m'a dit, madame, elles sont trop belles vos baskets.
Bon, on va écouter ce reportage avec les élèves du lycée Saint-Exupéry sur les baskets.
Pour moi les baskets,
sur une personne, ça représente et la personnalité et le style de la personne.
Pour moi, ça représente un peu rien du tout, parce que c'est juste des chaussures pour me déplacer dans la ville, pas marcher pieds nus.
Si je fais dans une soirée, je vais pas prendre des baskets, je prends un dingo.
Alors qu'est-ce que tu vas mettre si tu vas en soirée?
Soit des mocassins, soit des pointinini, les chaussures pointues.
Bon, comment vous choisissez une paire de baskets?
Moi, je choisis selon la forme, les couleurs, et surtout si elles sont sportives. Si j'arrive bien à courir avec, j'arrive bien à me déplacer sans me faire mal ou quoi.
Mais ouais, il y a aussi l'originalité et le fait que personne ne les a.
Moi, je change la chaussure quand ça y est, elle est foutue. Voilà. Même quand je marche, je sens mon orteil toucher le gravier. Là, je me dis, ça y est, je vais trop loin sur... la chaussure, elle est morte, donc je vais la jeter et je vais m'acheter, si j'aime bien le modèle, le même, dans une autre couleur ou une autre, rien à voir.
Alors qu'est-ce que vous pensez de ceux qui ne les changent pas, mais les collectionnent, en ont plus de 20 paires chez eux, par exemple?
Ah, ceux qui les collectionnent, ouais. Ben, en vrai, je comprends pas trop l'intérêt. Je vois beaucoup de vidéos sur Internet. Ils collectionnent les boîtes de chaussures avec les chaussures à l'intérieur, mais au final, ils en mettent que 3 dans l'année. Et genre, je comprends pas le but, mais après, c'est comme les collectionneurs de timbres, ils font ce qu'ils veulent.
Est-ce que vous n'avez pas le sentiment à un moment que vous enrichissez les grandes marques comme Nike, Adidas, Asics, Reebok?
Non, en fait, c'est pour notre propre plaisir. On s'en fout de la marque. Genre
moi, personnellement, ça fait pas partie de mes critères. Nike, demain, je peux trouver une paire de chaussures pas forcément de marque et qui est belle et je vais la prendre. Moi, quand j'étais petit, je m'habillais en Tex, monsieur.
Et ben alors?
Je m'habillais à Carrefour, bon, monsieur. Parce que j'ai grandi, mes goûts, ils ont changé.
Alors, inversement, est-ce que vous seriez prêt à aider une petite marque qui démarre et qui, elle, a besoin d'argent?
Ça dépend si ce qu'elle fait, ça me plaît. Si ça me plaît pas, je vais pas prendre juste pour lui faire plaisir.
Mais la mode, ça compte ou pas? Parce qu'il y a des marques à la mode. Ouais, une marque qui débute, elle est pas forcément à la mode.
Mais même si les gens, ils voient que c'est beau, ils vont se dire, ah, t'as acheté où, ouais, ça? Et après,
ça part,
ouais. Et c'est de là que ça part.
Mais est-ce que la mode, ça a un impact sur ton choix?
Oui, ça joue dans mon choix. Mais ça dépend. Des fois, je prends des chaussures qui sont pas à la mode. Moi, genre, quand j'étais petit, j'ai pris une paire de Kalenji. Pourtant, Kalenji, c'est pas à la mode.
C'est Décathlon, ouais.
Moi, par exemple, je vais jamais au magasin spécial Adidas ou Nike. C'est pas par rapport à la marque. C'est plus, je vais dans un endroit où ils vendent de tout. Et quand j'ai le coup de foudre, ben, je le prends.
En général, j'aime bien les grosses chaussures et une paire qui se remarque.
Quelle image tu penses que ça donne d'une personne, les baskets qu'elle a aux pieds?
Ben, rien, parce que moi, en fait, je mets des baskets en fonction de ma tenue. C'est-à-dire que si je vais penser que les baskets sont assorties à ma tenue, ben, forcément, je vais les mettre. Mais pour moi, ça ne me caractérise pas vraiment.
Les baskets, j'aime bien parce que je suis à l'aise dedans. C'est chaussures de... Pour traîner maintenant, avant, c'est les chaussures de ville de l'époque de maintenant.
Dante, what are you looking at?
Vous écoutez France Inter et c'est Interclass à Marseille, au lycée Saint-Exupéry aujourd'hui avec un professeur d'université. Bonjour Adrien Witz. Bonjour, nous sommes dans la salle des profs. Alors c'est un privilège absolu pour les élèves parce que dans cette salle des profs, il y a un petit patio très beau où on peut fumer notamment, entre autres, faut pas trop le dire. C'est pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Ouais, c'est bien ici.
On
n'a jamais vu ici. C'est cool.
Les profs, ils sont bien.
Vous êtes bien, monsieur.
Vous êtes bien, Adrien, effectivement. Vous êtes professeur à Sciences Po aussi, responsable du dispositif de démocratisation à Sciences Po Aix. C'est un dispositif où on les aide en première et en terminale à préparer le concours d'entrée. Et puis, pour certains, on sélectionne pour entrer à l'IEP, donc à Sciences Po Aix, même s'ils n'ont pas été lauréats du concours. Très bien. Des questions donc préparées par les élèves de cette interclasse à Marseille. On a préparé tout au long de l'année des sujets. On les a initiés à l'interview, au reportage. Alors, allons-y, Najim.
Pour être accepté à Sciences Po, est-ce que c'est compliqué ou...
Oui, c'est ce qu'on appelle une grande école. Donc, c'est sélectif. Par exemple, le concours d'entrée, il y a environ un candidat sur 10 qui est accepté.
Pour des enfants issus de quartiers défavorisés, est-ce que c'est difficile de se... de s'intégrer?
C'est difficile. Alors, ça dépend des personnalités. Il y a des personnalités plus sociables que d'autres. Mais scolairement, oui, c'est difficile parce que les exigences ne sont pas les mêmes. Et puis, quand on a été scolarisé dans un lycée de quartier sensible, la quantité de travail demandée, l'autonomie, tout ça est très différent. Donc, ça fait un choc. Ça fait un petit choc en première année quand on rentre. Après, c'est tout à fait possible. Il faut juste changer ses habitudes de travail.
Vous donnez des cours à Sciences Po et au lycée Saint-Exupéry. Ça fait combien de temps que vous faites ça?
Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans que j'interviens aussi dans une classe de seconde.
Et c'est pas trop dur?
Comme pour les étudiants de Saint-Ex qui rentrent en première année à Sciences Po, pour moi aussi, ça a été compliqué parce que c'est pas du tout les mêmes élèves. C'est pas les mêmes difficultés, mais aussi ça a pas le même, comment dirais-je, le même charme. Il y a, à enseigner ici, il y a un plaisir qu'on a du mal à retrouver ailleurs. Adrien, pour être clair, en fait, en faisant la passerelle entre les deux établissements, vous repérez des talents. Un peu, et puis aussi, ça me permet de comprendre les difficultés ensuite des lycéens d'ici que nous allons intégrer, savoir comment ils passent leur scolarité en enseignant moi-même en seconde. Ça me permet de bien identifier le choc et les efforts qu'ils vont devoir faire, les obstacles qu'ils vont devoir franchir quand ils seront chez nous en première année. Et j'ai compris énormément de choses en enseignant ici.
Est-ce qu'il faut être un professeur militant?
Même pour un enseignant non militant, enfin, il faut aimer son métier. Mais il y a encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un charme à enseigner ici qui marque tout le monde, je pense, militant ou pas militant. J'avais un collègue qui m'avait dit ça, et c'est très vrai, ils sont attachants. Ils sont extrêmement attachants. Et parfois, ben voilà, ils le savent, hein, il y a eu des moments où j'étais à deux doigts de leur taper dessus, mais il y a eu aussi des moments de grâce où j'ai adoré enseigner avec eux.
Comment avez-vous cette passion pour l'économie?
Alors, ce que j'ai adoré dans l'économie, c'est que ça nous oblige à tout le temps changer d'avis, à être constamment surpris par la réalité. Et encore aujourd'hui, on l'a vu ces derniers mois.
Est-ce que, avec votre passion sur l'économie, vous vous en servez dans la vraie vie, sur votre argent, votre compte en banque, tout comme ça?
Je suis très mauvais gestionnaire.
Il ne faut pas dire ça. C'est une catastrophe.
J'ai un plan d'épargne logement. Vous voyez, c'est tout. Non. Je suis enfin très mauvais. Je perds pas d'argent, mais je n'en place pas. Je ne gagne pas d'argent.
Il la gagne pas assez.
En plaçant de l'argent en bourse, si c'est votre question.
Caïs,
m'a volé la question.
Pardon?
Il m'a volé ma question.
Attends, enlève ton masque, on t'entend
il
pas.
Il m'a volé
ma question.
Je suis désolé.
La dernière question qu'il a posée, je voulais la poser.
Vous avez dit que vous avez fait Sciences Po Lille, ça veut dire que vous êtes né à Lille?
Je suis né à Boulogne-sur-Mer.
Oh là là.
Comme Franck Ribéry.
C'est où ça?
C'est dans le nord, ce qu'on appelle la Côte d'Opale, c'est-à-dire juste en face de l'Angleterre.
Et vous êtes venu quand à Marseille?
Alors je suis venu quand j'ai eu mon poste à Sciences Po Aix, il y a une dizaine d'années.
Avant de devenir prof, quel était votre métier?
Ah, j'ai toujours été prof. J'ai fait plein de petits boulots dans ma vie, mais mon vrai métier, ça a toujours été enseignant.
Vous avez toujours voulu être prof?
Quand j'étais à votre place, je me disais jamais je serais prof.
Vous vouliez devenir quoi?
Journaliste. C'est très vrai.
Comme quoi?
On va aller dans un autre endroit, ici, au lycée Saint-Exupéry, avec Claire Conté, qui est l'enseignante qui a encadré cette interclasse à Marseille tout au long de l'année avec nous. Et on va voir avec elle comment s'est passée pour elle l'expérience, comment elle s'est organisée aussi avec les élèves, qu'est-ce que ça a généré dans sa propre classe. Et on va aller dans un endroit qui domine Marseille, le flanc ouest de Marseille, avec une grande surface qui s'appelle Grand Littoral, qu'on connaît tous ici, toujours le port, la mer, et ce lycée Saint-Exupéry qui vraiment domine la ville de Marseille. C'est un peu comme Notre-Dame-de-la-Garde, mais dans les quartiers nord.
Mes petits Bélous, j'espère que tout le monde va bien. Donc voilà, aujourd'hui, c'est une journée assez spéciale. C'est les résultats du bac. Là, je suis juste devant mon ancien lycée, le lycée Saint-Exupéry de Marseille. Je suis un peu nostalgique. Donc là, on a tiré un élève au sort qui vient d'avoir son bac. Il est au courant de rien. On va lui faire passer une journée de folie. On va le mettre max. Suivez-moi.
Félicitations.
Sur 1800. Déjà, ça a commencé. On vient d'avoir le bac. Toute ta famille, elle est contente. On est tous fiers de toi.
C'est l'importance.
Madame, je vous le prends. Toute la journée, je le ramène en train de faire. Début de soirée. Tu as le permis ou pas?
Non, je ne veux pas encore.
Tu n'as pas le permis. Bon, on y va?
Ça charbonne toute l'année, faut faire de la moula. Frérot, c'est carré, soit Cali de la Havana. Gros, je suis mal garé, c'est la rue à Baba. À 200 sur le jarret, on se donne rendez-vous chez Wawa. On a de la mala, la mala, mala, mala. Les petites, ça les rend malade. Tu devrais tenir ta nana. On tiendra jusqu'à manana. Son bac, ça te clave à max. Sors-lui un violet, un sur d'être une paire d'air max. Ouais, Soso a eu son bac, ça te clave à max. Sors-lui qu'est-ce un violet, un sur d'être une paire d'air max. Ça charbonne toute l'année. Ça charbonne toute l'année, faut faire de la moula. Frérot, c'est carré, soit Cali de la Havana. Gros, je suis mal carré, c'est la rue à Baba. À 200 sur le jarret, on se donne rendez-vous chez Wawa. J'suis dans la zone, la frappe dans les AirPods. La queue plate dans la poche, de la moula dans la sacoche. Le frérot qui sort de Toll. Frérot, c'est carré, soit Dali de la Havana. Gros, je suis mal garé, c'est la rue à Baba. À 200 sur le jarret, on se donne rendez-vous chez Wawa. Ça charbonne toute l'année, faut faire de la moula. Frérot, c'est carré, soit Dali de la Havana. Gros, je suis mal garé, c'est la rue à Baba. À 200 sur le jarret.
T'attends mon frère cet été.
Voilà, on est arrivé au quatrième étage après beaucoup d'escaliers clair-comté dans le lycée Saint-Exupéry. Il faut savoir qu'il y a des coursives qui sont très très longues. Là, on est dans un couloir jaune avec sur notre droite, eh bien, comme je disais, le flanc ouest de Marseille. Et sur la gauche, eh bien, on voit le Frioul, on voit la mer. Il y a une classe dans laquelle on va aller dans un instant. Cet endroit-là, avec Grand Littoral, avec la cité de la Castellane, célèbre grâce à Zidane, c'est un lieu très particulier pour enseigner Clerc-Comté.
Oui, c'est vrai que c'est un lieu extrêmement particulier, c'est-à-dire que c'est le plus grand donc lycée général et technologique des quartiers nord, et en fait le seul, puisqu'il existe un seul lycée général et technologique, et que finalement on est quand même dans un espace extrêmement préservé, 20 hectares de végétation avec une vue magnifique sur la droite, sur la gauche, et cette vue sur la mer qui, soi-disant, très souvent on se dit, apaise aussi les élèves. Et donc je travaille en contrebas avec systématiquement la vue sur la mer, et c'est quelque chose de, ouais, d'absolument magique, on retrouve nulle part ailleurs.
Alors on s'est vu avec Marie-Christine Loriol au moins une fois par mois tout au long de l'année. On a initié les élèves à l'interview, au reportage, au métier du journalisme en fait. Qu'est-ce que vous en avez retiré vous? Comment ça s'est passé pour vous?
La première dimension, c'est la nécessité finalement de former nos élèves à l'éducation, aux médias et à l'information. C'est vrai qu'à l'heure où ils sont systématiquement sur les réseaux sociaux, les fake news, théories du complot, c'est très important qu'on puisse un peu les aider, les accompagner pour décrypter l'actualité, pour essayer de faire en sorte qu'ils puissent regarder l'information avec un regard, un esprit critique. Donc ça, c'est vraiment la première dimension qui pour moi est fondamentale. La deuxième, c'était aussi de développer chez mes élèves de nouvelles compétences liées à l'oral, à l'oralité. C'est vrai qu'à partir de l'année prochaine, pour le bac 2021, ils vont quand même passer ce qu'on appelle le grand oral en classe de terminale. Et donc, c'est très important pour eux d'être en mesure d'exprimer sa pensée, ses idées de manière claire, de manière concise. Et donc, c'est vrai que ça, je trouve que c'est une dimension qui est importante aussi. Et puis, la troisième dimension, c'est que c'est un projet de classe. C'est vrai que les élèves n'étaient pas volontaires au départ. On a pris l'ensemble de ma classe de seconde, pour laquelle en fait je suis professeure principale. Et force est de constater qu'au cours de l'année, ça nous a quand même soudés. Moi, ça m'a apporté un autre regard sur mes élèves. Donc c'est vrai que je trouve que c'est enrichissant. Et puis bon, avec ce confinement, on a eu des périodes qui n'étaient pas toujours évidentes. Mais on s'est toujours accroché à ce projet qui était extrêmement positif et qui nous a permis finalement de terminer l'année scolaire sur une note positive et se retrouver dans un contexte un peu différent, transdisciplinaire. Et un projet, voilà, ça motive l'ensemble des élèves, ça motive une classe et je trouve que c'est hyper important de pouvoir faire cela.
On va aller dans la classe avec les élèves Clerc-Comté et vous allez nous dire surtout, alors voilà, on arrive là dans un autre espace. Les élèves vont poser des questions à leur professeur Clerc-Comté sur Interclasse. Ryan, Caïs, je suis sûr que vous avez plein de choses à nous dire.
Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit, je vais arrêter le projet?
Honnêtement, jamais. C'est vrai que ça reposait au départ sur le volontariat, sur le fait que finalement, ça vous a été quelque part un petit peu imposé. Mais très vite, le fait que nous retrouvions tous les mois, donc avec les journalistes de France Inter, vous avez trouvé aussi un espace de parole. On a pu débattre, on a pu travailler sur plein de sujets différents. Et même si effectivement, on peut noter que 2-3 élèves n'aient pas suivi le projet, mais ça reste vraiment une minorité. Et dans l'ensemble, la preuve, vous êtes tous présents aujourd'hui et ça nous a permis quand même d'évoluer et de changer un peu le regard que vous aviez sur l'actualité, le métier de journalisme, et c'était aussi pour moi cet objectif-là qui était à atteindre.
Vous avez dit que tout à l'heure, vous avez dit que ça nous aidait pour nous, pour l'oral, etc., pour mieux s'exprimer. Mais vous aussi, ça vous aide de faire cette interview?
Bien sûr, moi je veux dire, hors de ce projet, jamais j'aurais pu travailler avec les journalistes de France Inter, Emmanuel Kérad, Marie-Christine Loriol, Éric Valmire. Je serais restée, on aurait continué dans ma discipline. Donc oui, ça m'a aidé, forcément, ça enrichit. Et chaque expérience est enrichissante. Et en tout cas, même nous, sur la classe, si on se revoit l'année prochaine, même si je vous ai plus en tant qu'enseignante, il y a quelque chose, il y a un lien qui s'est tissé.
Merci beaucoup Clerc-Comté, c'était un grand plaisir de faire Interclasse avec vous et de se retrouver une nouvelle fois à Marseille au lycée Saint-Exupéry avec des élèves qui ont été magiques. Voilà, ils sont souvent magiques les élèves, mais c'est vrai, mais ceux-là, il s'est passé un truc quand même. Merci Claire.
C'était Interclasse à Marseille, production et rédaction en chef Éric Valmire.
Assisté de Fanny Léonore Crouzet.
Réalisation Lilian Allom.
Programmation musicale, Jean-Baptiste Audibert.
Prise de sang, Fred Quérault, Nicolas Mathias.
Équipe France Inter, Emmanuel Kérad, Marie-Christine Loriol.
Équipe lycée, Clerc-Comté, Laurent Sabatier.